la voilà.
Chocolat chaud.
Bah allez debout, tu es en retard.
J'aimerais bien un petit café bien chaud avec deux croissants.
Ouais, bah demain matin, c'était bien ça, j'en attends ma boisson.
Un café avec cinq pailles, madame.
La matinale de 8h à 9h sur Radio Campus Montpellier.
Ma question est simple, qu'est-ce que vous comptez faire?
Oui, on va rigoler, pantoufatis.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la matinale de Radio Campus Montpellier. Il est 8h06 et nous sommes le mardi 9 avril. Nous allons passer une petite heure ensemble ce matin et j'ai ma petite équipe habituelle du mardi. On commence avec Benjamin, comment ça va?
Ça va très bien. Un petit peu de courbature, mais des courbatures agréables.
C'était pas courbature, c'est parce que tu vas faire ta meilleure représentation. On a aussi Pauline qui est là ce matin, ça va Pauline?
Oui, ça va.
J'ai son grand retour.
Ouais, c'est ça. J'aurais aimé avoir des courbatures aussi, mais non.
J'ai pas fait de sport.
Non, ouais, je suis pas allée au marathon, hein, j'ai pas fait des temps.
Sydney est aussi là ce matin, comment vas-tu depuis hier?
Eh bien, un petit peu mal à la gorge, encore plus qu'hier, mais sinon ça va. Et toi?
Tant que t'as de la voix, moi ça me va.
C'est ça, c'est ce qu'il me dit, tant que j'ai de la voix, moi ça passe.
Et on termine avec Nolwenn, comment vas-tu?
Ça va, un peu mal à dessus, mais ça va.
C'est franchement
de bonne humeur.
Il fait 20 degrés et on est tous là, genre.
Ouais,
mais ça c'est le mois d'avril.
Le pollen, notre meilleur ami.
On n'oublie pas de faire un petit coucou à Lily et Clem à la régie. Hello.
Coucou.
Pour l'interview du jour, nous recevons Karine Perrichoux, représentante de l'application GoodPlace2.live. Live, qui vient aujourd'hui nous présenter ce super projet. Mais avant cela, c'est l'heure de la chronique quotidienne qui vous guide et vous permet de comprendre la culture. C'est parti pour le Blabla Culture.
Je sais pas vous, mais j'ai une patate, moi, ce matin.
Ah, moi, pareil, il va y avoir de la danse, j'aime autant vous le dire.
Alors, trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile, dosée.
J'aime beaucoup ce tableau.
C'est le déjeuner des canotiers de Renoir.
J'adore danser. Le cha-cha.
Il m'arrive parfois moi-même de pousser la chansonnette.
Aujourd'hui, dans le Blabla Culture, on continue notre découverte de la Thaïlande. Commençons déjà avec le nom de la capitale. On la connaît sous le nom de Bangkok, mais ce n'est pas son vrai nom. Son nom est l'un des plus longs au monde et je vais tenter la lecture de ce dernier sans vous perdre au milieu. Donc normalement, cette ville s'appelle Koh Temp, Ma Angkon, Amon, Ratanoskin, Maintara, Ayutthaya, Madilok, Phop, Nophara, Nochatani, Buriram. Et je vais m'arrêter là parce que
tu m'enverras le nom hein, pour le podcast, s'il te plaît.
Mais son nom n'est toujours pas terminé. Voilà, j'ai dit que la moitié de son vrai nom. Mais je peux vous dire que la traduction de ce nouveau nom en français, c'est la ville des anges, grande ville, résidence du Bouddha d'Emeraude, ville imprenable du dieu Indra, grande capitale du monde ciselée de 9 pierres précieuses, ville heureuse, généreuse, dans l'énorme palais royal, pareil à la demeure céleste, règne du dieu réincarné, ville dédiée à Indra et construite par Vinsunkran.
Waouh, wow.
C'est cadeau.
Ouais. Ouais, merci.
Super positif au moins.
Oui,
c'est ça.
Et donc ce nom est assez controversé puisque en gros il a été changé en 2022 et ça pas tout à fait le bon avis pour tout le monde. Les autorités locales ont même accepté que les étrangers continuent d'utiliser le nom de Bangkok, là où les Thaïlandais doivent utiliser la version courte du nom officiel qui est déjà longue entre nous puisque c'est Krungrem Tapa. Non. Krung Thep Maka Nakhun. Et pour comprendre ce choix, je vole un peu la place de Pauline en me plongeant dans l'histoire. Donc Krung Thep était utilisé de manière familière par les Thaïlandais et ça fait référence à d'anciennes dynasties, donc une partie de la ville. Donc ils ont décidé de conserver ça. Et pour beaucoup de locaux, cette décision n'est pas forcément la meilleure. Elle n'est pas encore très reconnue et de plus, Bangkok, avant le Covid, était une ville très visitée. Si aujourd'hui on ne connaît plus son nom, elle risque de perdre en touristes. Enfin voilà, c'est la première, disons, fun fact que je voulais partager avec vous, mais j'en ai encore quelques-unes en réserve, si vous m'autorisez à continuer. Je ne sais pas si vous saviez, mais près de 95% de la population thaïlandaise est bouddhiste. Et en tant que gardien de la foi, les membres de la famille royale se doivent également d'être bouddhistes. La religion est omniprésente même dans le quotidien. Par exemple, pour tout homme bouddhiste ayant plus de 20 ans, il faut effectuer un séjour monastique qui doit durer entre 5 jours et 3 mois durant la saison des pluies. De plus, l'architecture religieuse thaïlandaise est bercée par le bouddhisme. On y trouve notamment de nombreux temples. On peut donc trouver dans l'un des sites les plus impressionnants de Thaïlande une statue de Bouddha dorée de 4,5 mètres de haut, assez connue. Et le bouddhisme s'est au départ développé depuis la péninsule indienne au 3e siècle, puis a ensuite parcouru son petit bout de chemin jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Il existe aussi de nombreuses pratiques bouddhistes différentes en Thaïlande. Le bouddhisme Theravada est l'une des formes les plus courantes. Elle se concentre sur les enseignements du Bouddha historique. Elle passe donc par des méditations pour atteindre l'illumination, des retraites spirituelles ou encore des lectures de textes sacrés. Mais il y a aussi le bouddhiste Mahayana qui se développe depuis quelques années, qui est une forme plus moderne et plus inclusive de la méditation, de la compassion, du bénévolat et beaucoup de pratiques de générosité envers les autres. On a donc une réelle différence entre les deux, mais ça permet au moins à tout un chacun d'y trouver son compte dans une seule et même religion. Autre point un peu sympa, la plupart des Thaïlandais ont deux noms. Le nom complet, qui est presque aussi long que le nom de la ville, et leur nom officiel, qui est leur... ils ont un nom, pardon, non officiel, qui est leur surnom. Mais contrairement, ou dans beaucoup de pays comme la France, on utilise le surnom, c'est une version abrégée de notre prénom. Là-bas, c'est vraiment un surnom significatif qui est choisi dès la naissance. Et ça doit même être un surnom qui a un rapport avec le jour de naissance. C'est pourquoi, généralement, les parents consultent un moine ou un astrologue pour choisir le surnom de leur enfant. Après, voilà, j'arrête de vous blablater, et j'espère que ça vous aura plu d'en apprendre un peu plus sur la Thaïlande.
Radio Campus Montpellier, l'expérience sonore.
Mais waouh, ce nom,
ouais. Trop intéressant.
Merci. Mais ce nom, c'est fou. Hein. Il était tellement long. En fait, au début, j'avais prévu de l'écrire en entier. Et ouais, plus je l'écrivais, et plus je me disais, voilà, c'est
déjà rien que la moitié, ouais, c'est.
C'était vraiment long. Ouais.
Il y a plein de trucs.
Il y a plein de choses.
Ouais, c'est super intéressant. Mm-mm. J'ai trop kiffé.
Les surnoms des Thaïlandais, je savais pas du tout.
Ouais.
Et je me suis dit que c'était. Enfin, je sais pas, je trouve ça hyper mimi.
Ouais,
genre.
Ouais, hyper.
En vrai, c'est un peu commun en Asie de l'Est. Hein.
D'avoir des surnoms à la place des prénoms.
Ouais, ouais.
Je serais trop curieux aussi de savoir si genre les prénoms aussi, du coup, ils sont genrés ou si vraiment ça, c'est hyper neutre et que c'est vraiment spécifique à un jour. Quoi,
je sais pas. Mais en tout cas, j'ai regardé un peu les surnoms qu'il pouvait y avoir. Tu sais, il y en a, ils vont s'appeler genre vous Céleste en petit surnom.
Oui,
ils vont s'appeler des trucs hyper vraiment par rapport à ce qui se passe le jour J, astrologiquement parlant. Ou
ça, même, c'est super stylé.
Mmh. Ouais, c'est pas vraiment mal. Beau. C'est très très beau.
Je suis d'accord.
On va pouvoir tout de suite passer au flash info du jour qui va nous être présenté par Nolwenn.
Toujours pas de nouvelles de Pico ?
Ma foi non, pas depuis la dispute avec Roussel.
Vous causez de quoi ? De tout ! Politique, spectacle, sport. Il me demande mon avis sur l'actualité, je lui donne.
Ben c'est pas vrai, con comme t'es, il demande ton avis.
Les nouvelles du Flash Info.
Et on commence tout de suite avec les informations locales. Montpellier, une journée internationale célèbre le peuple tzigane.
Hier lundi 8 avril dans le parc d'Arménie, derrière l'hôtel de ville de Montpellier, une cérémonie a été organisée en l'honneur de la journée internationale du peuple tzigane par l'association Cap Gély Figuerol. Elle permet de commémorer la création officielle de la nation du peuple tzigane. C'était à Londres le 8 avril 1971 que la première réunion s'était organisée. Depuis, elle est devenue mondiale et elle permet de ne pas oublier le génocide des 800 000 Tzigane qui a eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale. Stéphane Hernandez, l'un des membres de l'association Cap Gély Figuerol, rappelle que les Tziganes est le nom idoine qui regroupe les diverses ethnies de ce peuple, dont sont issus entre autres les Gitans, les Sintis, les Manouches, les Yéniches et les Roms. Il demande notamment à ce que cette journée soit officiellement inscrite dans le calendrier des célébrations françaises.
Héros à Rieussec, des teufeurs se sont rassemblés pour une rave party.
Ce week-end à Rieussec, environ 80 personnes se sont réunies en bordure départementale sur la route 907. Cette rave party n'ayant pas été déclarée au préalable et pour cause de nuisances sonores dans la commune, les gendarmes ont dû intervenir. La musique s'entendait à près de 10 km aux alentours. 12 personnes ont été arrêtées pour conduite sous stupéfiants, 2 personnes ont été arrêtées pour conduite sous alcool, 1 pour ne pas avoir de permis de conduire et quelques autres personnes pour des situations similaires. Alors le préfet de l'Hérault, François-Xavier Loche, interdira-t-il ces raves ?
Info nationale, Panama Papers, ouverture du procès.
8 ans après le procès des Panama Papers, le procès a débuté hier pour 27 personnes. C'est en 2016 que 109 médias internationaux ont révélé que des personnalités du monde entier ont pratiqué une évasion fiscale et du blanchiment d'argent par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats panaméen, Mossack Fonseca, l'un des leaders mondiaux de la domiciliation des société offshore. Parmi les 27 personnes jugées s'y trouvent notamment les fondateurs de ce cabinet, mais aussi les chefs d'État et de gouvernement ou encore des responsables politiques de premier plan. Ils ont caché au fisc des propriétés, des entreprises, des capitaux et des bénéfices. C'est en 2015 que les 109 rédactions internationales comprenant Le Monde ou bien Cache Investigation ont enquêté sur les 11,5 millions de documents provenant des archives du cabinet. La source qui a transmis des données sur les sociétés offshore et provoquant le début de cette affaire reste anonyme et se fait appeler John Doe.
JO 2024, une ONG alerte sur l'état sanitaire de la Seine à 100 jours des Jeux.
L'ONG Surfrider Foundation a déclaré les eaux de la Seine toujours autant inquiétantes à 100 jours du début des Jeux Olympiques. Depuis septembre 2023, ils ont réalisé une campagne de prélèvement sur le fleuve qui doit accueillir de nombreuses épreuves olympiques. Sur les 14 mesures que l'association chargée de la protection et de la mise en valeur des lacs, des rivières, de l'océan, des vagues et du littoral a travaillé durant les 6 derniers mois et sous les ponts Alexandre III et de l'Alma, 13 se révèlent au-dessus, voire très largement au-dessus des seuils habituellement recommandés pour la baignade, pouvant causer de graves conséquences pour les sportifs. Pour France Info, le coordinateur de campagne Marc Valmassoni, chez l'ONG, a déclaré « En termes sanitaires, ils sont exposés à des pathologies comme la gastro-entérique, la conjonctivite, l'otite ou des problèmes cutanés. »
On passe aux informations internationales. Une éclipse solaire totale au Canada, au Mexique et aux États-Unis.
Hier, une éclipse solaire spectaculaire était attendue en Amérique du Nord. Des millions de personnes se sont préparées et ont attendu pour observer ce phénomène qui survient rarement. C'est lorsque la Lune se place exactement entre la Terre et le Soleil, bloquant pendant quelques minutes la lumière qu'on la nomme éclipse totale. Elle a premièrement commencé par le Mexique, puis s'est dirigée vers New York pour finir au Québec. Les millions de personnes qui s'étaient déplacées spécialement ont tous reçu la même consigne par les autorités, celle de porter des lunettes adaptées. Les habitants des trois pays venant de partout ont provoqué des vagues de tourisme sur des sites tels que les chutes du Niagara. De nombreux hôtels ont affiché complet et d'importants embouteillages ont été attendus. Certaines compagnies aériennes ont même été jusqu'à rajouter des vols pour voir ce phénomène depuis les airs et des écoles ont été fermées pour permettre aux élèves de sortir plus tôt.
À 120 ans, la France et l'Angleterre célèbrent leurs ententes cordiales.
L'Élysée et Buckingham Palace célèbrent leurs 120 ans d'entente cordiale avec une relève de la garde inédite. Ce sont des soldats français de la garde républicaine qui ont monté la garde devant le palais royal britannique et leur homologue anglais devant l'Élysée. C'est la première fois dans l'histoire de l'Élysée qu'une troupe étrangère est invitée à participer à ce rituel militaire, souligne la présidence française rapportée par l'AFP. Cette entente cordiale a été signée le 8 avril 1904, permettant d'améliorer les relations après la guerre napoléonienne et est considéré comme le fondement de l'alliance entre les deux membres de l'OTAN. Alors la France et l'Angleterre sont-ils devenus meilleurs amis ?
Radio Campus Montpellier, 102.2 FM.
Merci beaucoup Noreen pour ce flash info.
Il y a tellement de trucs à dire.
Mais vas-y, je t'en prie.
Il n'y a pas tant d'informations déprimantes.
Non, bah, celle sur les JO. sur l'état de la Seine.
Pas déprimant, genre.
C'est drôle.
C'est truc quoi.
Ouais, bah, ça dépend pour qui.
Bah, c'est surtout que bon.
Il n'y a pas de gens décédés quoi.
Ouais,
bah, pas encore.
Pas encore. Ils auront une gastro-entérite, écoute.
Une petite otite, bon, c'est pas.
Trois fois rien.
C'est des grands sportifs, ils vont survivre à une petite gastro, une petite otite.
C'est ça. Non, par contre, 10 km la rave, ça veut dire que tu marches pendant genre 2h30, 3h
pour danser.
Non, 10 km quand même.
10 km, 5 km heure de marche.
Non, tu marches pendant une heure, t'as fait largement tes 10 km.
Si tu marches vite, en vrai. 10 km, c'est en 1h30, je pense. Bref, on s'en fout, mais bref.
On va partir des mathématiques. Allez.
T'entends ça de loin, carrément.
Ouais. Non, moi, je crois que ce qui m'a plus choqué un peu, c'est l'éclipse solaire avec les vols d'avion.
J'ai des amis qui l'ont vu. Mais alors, pas dans l'avion.
La chance.
Mais tu sais, tu prends un avion juste pour voir ça, quoi.
Ah, mais oui.
Enfin, c'est ça qui, moi, un peu m'a choqué, là.
Bonjour, le bilan carbone derrière, c'est vrai.
Exactement. Mais ils ne sont pas pensés à l'écologie. Ils se sont dit, attends, phénomène incroyable.
Oui. Mais ça a été vraiment un truc touristique incroyable, l'économie
temps,
des pays.
Fou, ouais, c'est fou. Et attends, puis qu'est-ce que t'as dit aussi d'autre ? Il y a un truc, je voulais revenir dessus.
France et Angleterre, l'entente cordiale.
Non.
J'ai dit les Panama Papers.
Ah oui, ouais, voilà. Ouais, je crois que c'est ça.
L'ouverture du procès.
Ouais. Je crois que c'était le nombre.
Ouais,
de...
c'est pas trop tôt. Ça fait presque 10 ans, quoi.
La quantité d'argent.
Oui, parce que j'avais un peu oublié que ça existait, ce truc.
Ouais, bah ça fait vraiment longtemps, hein. Ça fait depuis 2016 quand même. Ouais.
Enfin,
la source a démarré en 2015, mais depuis 2016, on est en 2024. Bon. Ouais.
Mais pourquoi le procès n'ouvre que maintenant, justement ?
Bah, l'investigation est déjà hyper longue, enfin, ils ont dû traiter 1,5 million de documents.
11,5 millions de documents. C'est quand même 109 rédactions qui ont regardé ça. Hein.
Ouais.
Oh, moche.
On va pouvoir passer à la première pause musicale de cette matinée avec Still Beating de Mac DeMarco.
Mmh. so she thought, well, my heart was on my sleeve. Honey, I cried too, you better believe it. Honey, my heart still beats for you, even though you don't feel it. Songs could ever go and hurt someone. Never meant to sing my tune for anybody else out there but you. Honey, I cry too, you better believe it. Still beats for you, even though you don't feel it. Honey, I cry too, you better believe it. Honey, my heart still beats for you, even though you don't feel it.
Vous êtes bien dans la matinale de Radio Campus Montpellier, 102.2 FM, et vous venez d'écouter Still Beating de Mac DeMarco. Pardon. On passe tout de suite à notre deuxième chronique du jour avec Benjamin qui monte un nouvel étage de la tour.
Je ne sais pas ce que ces deux Italiennes étaient en train de chanter.
Je dois vous demander de traduire quelque chose pour moi.
À dire vrai, je veux pas le savoir.
Le langage est la fondation de la civilisation. C'est le ciment qui permet à un peuple de rester uni.
Je crois que c'était quelque chose de si beau que ça ne peut pas s'exprimer avec des mots.
Vous saviez que si les derniers films de Kaiju où un singe géant apparaît le surnomment seulement Kong et pas King Kong, c'est parce que le nom King Kong est encore dans le domaine privé jusqu'en 2030 et que donc, pour éviter de payer des droits, les productions emploient seulement le nom de Kong qui n'est pas copyrighté. C'est fou, hein.
C'est très mal.
Ça, c'était random. Voilà.
C'est mais bon, moi, je viens pas vous parler de l'histoire de la chronologie des droits d'auteur. Hein, je laisse ça volontiers à Pauline. Moi, je viens vous parler de l'éthique du langage dans une œuvre. Et ça tombe bien parce que Kong, on l'a entendu rugir il y a une semaine en France avec la sortie de Godzilla X Kong, le nouveau royaume. Et en vérité, on n'entend pas que notre Kong favori rugir, mais aussi Godzilla et son cri inchangé depuis sa toute première apparition, ou bien encore tous les autres kaiju du film, ces créatures gigantesques à l'apparence plus ou moins animale. Et je trouve ça fou qu'on ait quasiment un tiers, voire plus de temps d'un film, d'un blockbuster, qui soit quasi entièrement muet, puisqu'à l'exception de ses rugissements, ces monstres ne parlent pas. Un choix qui semble véritablement révélé d'une intention toute particulière, puisque l'une des protagonistes principales est une fille muette qui ne parle qu'en langue des signes, avec une tribu indigène qui ne dit pas un seul mot de tout le film. Mais ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est justement comment le film parvient à pallier à ce mutisme pour développer un tout autre propos. Le fondement de la civilisation, c'est la technologie. Vous l'aurez peut-être vu dans la bande-annonce, ou dans le film pour les plus chanceuses, mais Kong obtient finalement un bras robotique amélioré, qui va lui permettre de vaincre ses ennemis. Si c'est un ajout majeur dans l'artillage de ce singe monstrueux, ce n'est cependant pas le seul outil qu'il utilise, ni lui, ni les autres kaijus du film. On assiste à des combats à la hache, au fouet, à la dague, et on a même une technologie permettant de modifier la pesanteur de la planète. En bref, chacun pallie à l'absence de langage en faisant comprendre simplement et clairement ses intentions à grands coups de massue. Je suis plus fort que toi et plus intelligent que toi, donc soumets-toi à ma politique, que ce soit celle d'une paix durable ou d'une guerre permanente. Je trouve ça toujours incroyable de générer un discours à partir d'un nanar, parce que ça semble toujours hyper sincère malgré la réalisation parfois complètement loufoque. Mais ce que je trouve encore plus incroyable, c'est de retrouver exactement les mêmes signes dans une toute autre œuvre pour arriver à une conclusion totalement différente. Reprenons donc les essentiels, la technologie, le langage, le mutisme et surtout les singes. En 2011 sort le premier volet d'une trilogie inspirée d'un des plus grands romans de la science-fiction. Dans celui-ci, un scientifique du nom de Will Rodman va procéder à des expérimentations visant à guérir de l'Alzheimer en régénérant les cellules du cerveau. Le produit, administré à un singe, va avoir un effet bien supérieur, augmentant considérablement ses capacités intellectuelles. Au fil du temps, l'animal va travailler ses capacités mentales, capable alors d'exprimer une forme de conscience, jusqu'à finalement être capable de dire son premier mot « non ». L'expression formelle de sa capacité à exprimer sa conscience et sa volition. Il est devenu un être pensant, capable d'agir. A partir de là, c'est l'ascension de cette espèce désormais égale à l'homme, si ce n'est déjà supérieur, en proclamant son émancipation. C'est l'avènement de la planète des singes. Avec ce film, le film élabore méticuleusement comment le langage s'inscrit comme le fondement d'une civilisation. Elle est le ciment qui permet à un peuple de s'unir. On assiste dans ce film à la façon dont les différentes espèces de singes vont s'organiser grâce à César, le premier singe capable de parler. Sa suite, l'aube de la planète des singes, va justement montrer ensuite comment le langage est également la première arme tirée lors d'un conflit, puisque les humains vont lutter contre les singes, les voyant comme un danger potentiel trop grand, tandis que César et sa communauté ne cherchent qu'à vivre en harmonie, sans plus aucune forme de soumission entre les deux espèces. Un troisième groupe de singes insurgés, mené par Korba, va s'immiscer dans ce conflit pour mettre le feu aux poudres, cherchant la suprématie du peuple des singes tout entier, quitte à éradiquer la race humaine. Le film joue donc de discussion et d'action pour montrer comment chaque groupe tente de résoudre le conflit, de façon paisible ou belliqueuse, qu'il soit doté ou non de langage. La trilogie de la planète des singes explore donc comment le langage est à la base des relations entre plusieurs civilisations, capables peut-être de se comprendre, mais parfois incapables de se faire entendre. Mais le troisième film va plus loin encore. Alors que la communauté de César vit en paix, un groupe d'humains cherche encore à se venger. Dans un dernier effort de régler ce conflit, César va donc seul tenter de faire face au leader du groupe de mercenaires. Un leader effrayé non pas par ce que César pourrait lui faire, mais par les effets secondaires du produit qui l'a rendu plus intelligent et qui, sur l'homme, a l'effet inverse. Comme une dégénérescence chronique du cerveau, les hommes vont peu à peu perdre tout usage du langage, suivant donc une courbe inverse de progression à celle des singes. Le film questionne donc les fondements de la civilisation à travers le langage, mais également sur ce qui fait notre humanité. Sommes-nous encore humains si nous ne pouvons plus nous exprimer? Les singes étaient-ils déjà conscients avant de pouvoir parler? Peut-on montrer de l'humanité face à des espèces avec lesquelles nous ne pouvons pas parler? En comparant la trajectoire de Kong et celle de la planète des singes, on se retrouve donc face à un constat diamétralement opposé. Si on part avec les mêmes éléments, à savoir des singes, du langage et de la science, on arrive d'une part à une conclusion qui mène à penser que le plus humain et peut-être de savoir utiliser un outil, tandis que la seconde demande plutôt de penser que notre capacité à communiquer, naît notre humanité. Bref, après autant de questions, celui qui cherche encore des réponses sur comment faire des grimaces ferait peut-être mieux de demander au vieux singe.
Radio Campus Montpellier, 102.2 FM.
Merci beaucoup Benjamin pour cette chronique.
J'ai beaucoup aimé la dernière phrase.
Moi j'aime bien la trilogie des planètes des singes.
Ah, c'est trop cool.
Je n'ai pas du tout vu.
C'est vrai?
Non, ouais.
Faut lire le livre aussi. Il est bien. Il est pas trop long. Les films sont bien. Genre.
En plus t'as la suite là qui va sortir bientôt.
Ouais. Voilà. Oui avec oui. Mmh.
Mais du coup tu préfères les films ou les livres?
J'ai pas lu le livre.
Ah ben voilà.
Non bah le livre il y a que un tome. C'est que le film va plus loin que le livre.
Ah oh, ok. Ouais.
Mais d'ailleurs, le livre et le film sont assez différents. Ouais. En vrai.
Ouais. Ah ouais. Oui, ouais. En vrai, oui. Mais il date d'il y a longtemps, je crois.
Ouais.
Je sais plus. Bref. Il faut lire les deux, c'est intéressant.
Tout de suite, on va passer à la deuxième pause musicale de la matinée avec Esper par Pure.
Angels won't take over. of dreaming. Somehow these waves just hold me under. It's a fear portrait.
Vous êtes bien dans la matinale de Radio Campus Montpellier, 102.2 FM, il est 8h34 et vous venez d'écouter Esper de Pio. Et on va pouvoir maintenant passer à la dernière chronique, celle de Pauline qui est revenue parmi nous. Elle a vaincu sa peur de la coupe de parole pendant sa chronique. Elle est là pour nous présenter l'envers de l'histoire.
C'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez, non?
Parce qu'en fait, toi, c'est quoi ton type à toi, de femme à toi?
Vivante.
Enfin, je veux dire, ça sent pas la réunion de bouseux, votre histoire, là.
Ah bah vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, bah je vois de ça à personne.
Attendez, c'est pas possible. Il faut au moins 8000.
Non mais c'est débile cette histoire.
Ça fait du bien de revenir.
Et de ressentir ton jingle.
C'est ça,
de
exactement.
De pouvoir te couper la parole.
Ouais, ça commence bien. Aujourd'hui, pour l'envers de l'histoire, on va faire un peu de philosophie. Ouh. On va parler jeux vidéo. Donc désolé Benjamin. En fait, j'ai l'impression que cette chronique, on a tous piqué les sujets des autres, en fait.
Vous renvoyez la balle.
Ouais, c'est ça. Mais je vous assure, il y a un petit lien entre la philosophie et les jeux vidéo.
Ah bon.
Mais surtout, on va faire un grand bond en arrière. Retour en 2018. Alors oui, pour moi c'était hier, mais je viens de me rendre compte il y a pas longtemps que c'était il y a 6 ans, donc une éternité.
C'est vrai quand tu dis 6 ans, ouais.
Ouais, hein, ça remonte en fait.
Ah bah, le lycée
qui est bloqué sur 5 en mode 2023.
Ah non, non. Qui est 2024. Mais alors pourquoi jeux vidéo et pourquoi philosopher? Tout tient en trois mots. Detroit Become Human. C'est le nom du jeu vidéo sorti sur PlayStation 4 en mai 2018 par un développeur français, sortez les étendards, Quantic Dream. J'ai découvert ce jeu très récemment lors d'un devoir d'anglais où on a dû faire un essai sur une œuvre mêlant à la fois la fiction et la politique. Et en tant que non-gameuse et chroniqueuse radio, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de philosopher naïvement sur ce jeu et d'en comprendre son histoire. Imaginez-vous, dans un futur, une grande entreprise a développé des androïdes qui peuvent vous aider dans tous les aspects de votre vie. Quotidienne, travail, basse besogne ou désir inavouable. C'est la vie en rose. Et pourtant, vous commencez à vous sentir de plus en plus engourdi. Les androïdes coexistent avec les humains et boum ! Un jour, ils sont capables d'acquérir leur propre conscience et veulent vivre sur un pied d'égalité avec vous. Ils commencent à se rebeller et à faire une révolution. Que feriez-vous ? C'est là l'hypothèse que propose Detroit Become Human. L'intrigue se déroule en 2038, dans la ville de Détroit, où la corporation CyberLife a créé des androïdes. On incarne trois protagonistes, trois androïdes. Kara, Connor et Marcus. On joue alternativement les trois personnages, avec chacun sa propre histoire, et on va devoir prendre des actions dans un temps imparti, en fonction de la situation qui se présente. Ces choix auront un impact sur tout le déroulé de l'histoire, en supprimant des options, en fonction des actions passées, de la réputation et de l'opinion publique, on accède à une fin spécifique qui n'est pas la même pour tous les joueurs, et qui d'ailleurs peut entraîner la mort de un ou plusieurs de nos personnages. Si vous y réfléchissez, c'est une sorte de métaphore de la vie, plus précisément de l'effet papillon. Vos actions passées peuvent avoir un impact sur votre avenir, sur la façon dont les gens vous perçoivent. Mais alors en quoi ce jeu est politique ? Parce qu'il est entièrement consacré à l'humanité. Si on regarde de plus près l'intrigue au début, nos personnages sont soumis, en tant qu'androïdes, à leurs propriétaires qui les ont acquis. À la base, chaque androïde est assigné à un programme qui lui dicte sa conduite et qui est censé le faire obéir et agir selon ses termes. Cependant, certains comportements humains, par exemple un propriétaire qui devient violent ou encore une agression sur les droïdes, peuvent conduire à un phénomène particulier, la déviance. C'est quand ils brisent mentalement leurs paramètres et acquièrent leur propre volonté. Chaque personnage joué va ou peut être déviant. En fait, c'est au joueur de décider si l'androïde become human. À travers ce jeu, c'est notre humanité qui est questionnée. Va-t-on accepter le sort des androïdes et choisir de les laisser mourir, ou bien va-t-on se battre pour eux et les libérer? Et puis, si oui, quels moyens est-on prêt à utiliser? En nous montrant une société corrompue et des humains pervertis, avec des corporations créant des robots pour servir nos propres intérêts, Detroit Become Human construit une forme d'introspection sur nos sociétés de consommation, sur le progrès et la technologie, et ce que nous pourrions en faire. Pourquoi, dans le jeu, le comportement des androïdes semble-t-il avoir plus de sens que celui des humains ? Qu'est-ce que cela dit de nous ?
Radio Campus Montpellier, l'expérience sonore.
Merci beaucoup Pauline pour cette chronique.
Elle était un petit peu courte, non ?
Non, elle était très
intéressante. Ah oui, c'est ouais, intéressante, mais un peu courte, j'ai trouvé.
Ouais.
Mais t'inquiète, elle était complète. Hein.
Voilà. J'ai trouvé très
super. J'arrive pas à ta cheville encore.
Oh, c'était tellement. Non, vraiment, c'était tellement bien.
T'es trop gentil.
J'ai eu des choses. Les chibotes.
Non, franchement, c'était hyper intéressant.
Ouais, hyper
en plus, il y avait plein de questionnements finalement sur la vie.
Un petit peu philosophique. J'en ai supprimé un peu, ouais. Parce qu'après, on partait sur des choses. Dissertation de 3 heures.
Ah oui. Ouais, non. Heureusement que t'as évité, ouais.
Et tu vois, je pensais vraiment qu'il y avait un petit peu. Tu sais, un peu forcé le joueur à faire des personnages déviants, mais on peut rester.
Non, en fait, sur les trois, il y en a un, Connor, où tu peux décider, okay. Le policier,
ouais,
si tu le fais devenir déviant ou s'il reste entre guillemets dans le droit chemin, enfin dans son programme.
Mmh. Ouais. Vraiment,
sachant qu'en fait, ce personnage-là, il est censé aider les policiers à arrêter les déviants, les droïdes déviants. Donc c'est hyper complexe. Est-ce qu'il trahit les siens ou est-ce qu'il trahit les humains? Voilà.
Très intéressant. On va pouvoir passer à la troisième pause musicale de cette matinée avec Ghost Ride de Crumb.
Daydreaming, I stay in the backseat. The slow beat rocks me back to sleep, keeps me on. Against the glass, I see the people when they pass. They move.
êtes bien dans la matinale de Radio Campus Montpellier, 102.2 FM, il est 8h42 et c'était God Stride de Crump. À cause d'un petit contretemps, on n'aura malheureusement pas d'interview aujourd'hui. On va donc pouvoir tout de suite passer au point météo de ce mardi 9 avril.
Nous vous informons que les conditions météorologiques ne nous permettent pas...
C'est si mignon et si triste.
Faire moins que le soleil sera de la fête. C'est plus gai, pas moins triste.
On n'est pas ici pour pleurer sur le 102.2 FM.
Il suffit d'ajouter un soupçon de temps, un rayon de soleil, trois gouttes de pluie et le voilà grand.
Alors, pour le point météo de ce mardi 9 avril, nous sommes arrivés à la radio avec 11 degrés. Nous attendrons 19 degrés pour les maximales. Le soleil pointera peut-être le bout de son nose vers midi. Mais attention, il devrait quand même y avoir beaucoup de vent. Le soleil s'est levé à 7h11 et se couchera à 20h21. Je tiens quand même à dire qu'on a gagné 20 minutes depuis la semaine dernière.
Ouais, j'avoue, franchement, ça se ressent, c'est tellement
mieux. Ça avance super vite. Et nous souhaitons une très bonne fête au Gautier.
Radio Campus Montpellier, 102.2 FM.
Et c'est la fin de cette émission. Merci à Benjamin, Pauline, Nolwenn et Sydney d'avoir été avec moi ce matin pour vos super chroniques et flash info.
Avec plaisir. En pur tourisme, mais avec plaisir.
Merci à Lily et Clem d'avoir géré la technique comme des chefs. Si vous avez manqué une partie de l'émission ou simplement que vous voulez réécouter nos 12 voix matinales, toutes les émissions seront disponibles sur forme de podcast sur le site de Radio Campus Montpellier. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur nos réseaux sociaux pour être au courant de toutes les news de la radio. Aujourd'hui, au programme du jour, vous retrouverez à 17h le rencard, à 19h le jour du soigneur, à 21h la récolte, à 22h Campus Local Club et à 23h Campus Club. On vous souhaite une excellente journée, un très bon début de semaine, c'était l'équipe de la matinale. Et je vous propose de se quitter avec So Hot You're Hurting My Feelings de Caroline Polacek.
All I can count on the day.